cantique ensemble, si vous voulez bien, juste qu'on puisse se lever, vous demander de commencer comme ça.
Je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur, je je t'adore, je t'adore, ô Seigneur, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu.
Juste adore-le ce matin, quelques instants.
Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur.
Quelques instants, élève ta voix dans de nouvelles langues.
Yokunayasa Elo. Yokara Mia Ila. Yokara Yeso Yara. Kisunavia. Cosa la elo, cora mai la vaya lelo, isolama. Je t'adore, nous t'adorons, je t'adore. Je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore.
Père, nous t'adorons ce matin. Nous ne venons pas juste dans un temps d'occupation, nous venons devant le roi des rois. Nous venons devant celui qui a créé tout l'univers. C'est pourquoi nous nous tenons avec beaucoup de solennité devant toi, beaucoup de respect également. Et nous te disons ce matin, oui, nos cœurs te sont dévoués. Nous t'adorons de tout notre cœur. Reçois favorablement. Et Seigneur, je te prie que ta parole puisse porter du fruit dans nos âmes, qu'elle nous amène plus loin à ta suite, Seigneur. C'est un privilège et nous te demandons, Seigneur, glorifie-toi dans ces moments. Merci Jésus-Christ, à toi soit toute la louange, toute la gloire, Père. Et je te prie vraiment de bénir cette assemblée, de la renouveler dans la vie de l'esprit, de la renouveler dans la foi, Seigneur, et que tous ceux qui y passent, Seigneur, puissent rencontrer le roi des rois. Merci Seigneur, à toi soit la louange, Père. Amen. Amen, bien-aimés, je vous invite à prendre place. Voilà, c'est une joie pour moi de vous adorer, d'adorer le Seigneur. Vous voyez, je me couche trop tard chez Christophe quand je dors chez lui. Je suis ravi d'être avec vous, chers amis, ravi d'être dans ce lieu. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des internautes aussi. Est-ce que je pourrais vous demander juste de lever votre main, vous saluer? Est-ce qu'on pourrait les accueillir, s'il vous plaît? Je suis ravi de... je vois que l'accueil... Est-ce qu'on pourrait les accueillir, s'il vous plaît? Ah, bien aimé. Je suis ravi d'être avec vous. Mon frère, est-ce que tu peux me monter un tout petit peu le micro, s'il te plaît, ou le retour, je ne sais pas. Mais vraiment ravi, soyez les bienvenus ici. Sentez-vous comme à la maison, je vais le dire de la part du pasteur. En tout cas, je suis ravi aussi d'apprendre à vous connaître, de voir le peuple de Dieu ici en Suisse. Et, vous savez, je l'ai dit hier soir, je l'ai dit vendredi soir, j'aime ce pays. J'aime la Suisse, moi j'ai pu habiter ici pendant 3 années, j'ai marié la plus belle des Suissesses également, Sylvia qui n'est pas là ce matin, j'ai 2 petits garçons, un petit Adam, un petit Elliot il est né en décembre là, il ne fait pas encore ses nuits, donc merci de prier pour nous, que le Seigneur renouvelle nos forces dans la marche. Hein. La Bible nous dit je me couche, David dira je me couche et je m'endors, bon il n'avait pas d'enfant en bas âge à ce moment-là, parce que nous ce n'est pas tout à fait ça, mais je crois vraiment que le Seigneur aime ces familles qui sont unies, qui servent le Seigneur ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui servent en famille ici, dans cette assemblée? Oui? Non? Il n'y a pas de famille qui sert? Bien-aimés, je vous encourage, servez avec vos enfants, montrez-leur aussi ce que c'est le service, c'est une telle joie, un tel privilège. Avant que j'oublie également, alors on vous a présenté Judith et David qui sont venus avec moi, merci beaucoup. Tu es tellement gentil, merci Patrick. Ah. C'est pas ce que ta femme dit. Bon, mais alors, Christophe, il faudra que tu la rencontres. C'est tellement gentil, Patrick, on dirait que t'es français. En tout cas, c'est vraiment un bonheur. Je vous salue aussi de la part de la Porte Ouverte à Mulhouse. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un des pasteurs là-bas. On vous salue, on vous aime de tout notre cœur. Vraiment, on aime se déplacer, pas pour voyager, on aime se déplacer pour voir ce que le Seigneur fait un peu partout en Occident. Alléluia. Un peu partout en francophonie, il agit, il parle, il conduit. Actuellement, moi je suis ici, j'ai un de mes collègues qui est à Paris, j'ai Jean-Marie. Alors Jean-Marie, vous le connaissez, hein, je crois. Hein. Jean-Marie, c'est devenu notre globe-trotteur. Ça y est, il se met enfin au travail maintenant qu'il est à la retraite. On est vraiment ravis de le voir venir, de le voir partir. C'est une bénédiction partout où il va, donc c'est une joie pour nous. Bien, ce matin, j'aimerais vous donner le titre de mon message, si certains prennent des notes. J'ai appelé ce message, et je le nomme comme ça, « Vis ton appel ». Vis ton appel. Nous avons souvent l'habitude d'entendre l'expression « rentre dans ton appel ». Mais je dois dire que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette expression, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour moi, il y a une urgence. Nous devons vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Il nous faut vivre ce que Dieu a prévu pour nous maintenant. Bien-aimés, nous sommes dans une saison, et je pense que vous le voyez tout aussi bien que moi, en Suisse comme en France, nous sommes dans un climat pressurisé, nous sommes sous pression. Il y a une urgence à ce que les chrétiens deviennent des disciples qui soient réellement des lumières. Il y a une urgence à ce que réellement nous puissions être cette bonne nouvelle, ce sel et cette lumière là où Dieu nous envoie partout. Donc ce matin, j'aimais nous exhorter en vous disant, vous devez vivre de votre appel. Ah bah dis donc, non mais je vois que ça va être difficile. Mais je sais m'accrocher, vous inquiétez pas, je sais m'accrocher. Vous avez le droit de dire amen aussi, vous savez amen ça veut dire je suis d'accord, qu'il en soit ainsi, bien aimé. Nous devons vivre notre appel, est-ce que tu peux le dire à la personne à côté de toi? Je crois qu'elle ne le croit pas pour elle-même. Dis-lui, tu dois vivre ton appel ce matin. Il y a il y a, je le crois, une mauvaise compréhension. Il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'appel. Dans nos milieux, il y a une mauvaise compréhension. Quand on parle de l'appel, rapidement, on réduit la notion de l'appel à la notion des cinq ministères. À la notion des ministères, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. On réduit à la dimension des apôtres, on réduit la notion d'appel aux cinq ministères. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a posé la question dans la voiture en venant ici. Mais effectivement, la notion de ministère, on la voit particulièrement développée sur les cinq ministères bibliquement. Aujourd'hui, je sais que ça plaît pas trop de dire il y a ceux qui ont ces cinq ministères et puis il y a les autres qui ont leur appel aussi, mais qui font d'autres choses. Aujourd'hui, on met le mot ministère pour tout. Le problème, c'est que ça a enlevé le sens des cinq ministères. Les cinq ministères, c'est une bénédiction pour l'Église. Alléluia. C'est une grâce, bien-aimé. Alors, je sais que des fois, pour niveler, pour équilibrer un peu partout, on dit, chacun a son ministère. Dans le sens de l'appel, je le comprends, mais employons les termes que la parole de Dieu nous donne. Les cinq ministères, le mot ministère, on le voit comme cette responsabilité que Dieu confie à certains pour l'édification du peuple. Et nous confondons par moments cette notion d'appel avec la notion des cinq ministères, avec la notion de fonction. Avec la notion, je vais aller un peu plus loin, de titre. Quand on me demande quel est mon appel, on veut comme réponse, je suis pasteur. Mais bien aimé, ce n'est pas ça mon appel. Mon appel, c'est d'être sel et lumière. Peu importe le titre, peu importe la fonction, on s'en fiche. Ça nous est égal. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre vous ici présents qui aimaient le Seigneur ou sur Internet et qui ont donné leur vie, dédié leur vie à Christ, chacun d'entre nous a un appel. Chacun d'entre nous est appelé. Bien-aimé, quand on parle de rentrer dans son appel, quand on parle de discerner son appel, c'est des termes qui me dérangent un petit peu. Je peux comprendre le sens, mais je crois qu'on a perdu l'essentiel. Je crois qu'on a oublié que l'appel, c'est aujourd'hui. L'appel, c'est maintenant. On est quelle date aujourd'hui? On est le 26 février. L'appel, c'est dimanche 26 février, quand vous sortirez de ce lieu. C'est ça, voilà, quand même, j'en ai convaincu un. Dis donc, j'espère qu'à la fin, on aura la majorité. Hein. Bien-aimé, il y a beaucoup de livres écrits à ce sujet, beaucoup de livres dédiés à la notion d'appel, mais j'aimerais ensemble réfléchir avec vous sur ce que réellement on comprend. Quand on parle d'appel dans l'étymologie, alors on voit deux mots. On voit notamment dans Romains 1, au verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et là, je vous rejoins. Dans ce sens-là, on voit ici le mot, alors c'est le mot kletos, il y en a des plus grands experts des mots anciens, des mots originaux, mais kletos, c'est appelé à une fonction, appelé à une charge. Mais dans la parole de Dieu, essentiellement, le mot kletos est employé par Paul, et quasiment juste par Paul, pour se définir dans son rôle d'apôtre. Maintenant, il y a un autre mot qui est beaucoup plus souvent employé dans la parole de Dieu. Et ce mot, c'est le mot « kaléo ». Et vous le retrouvez notamment dans 1 Corinthiens 7, au verset 17. « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » Et ici, le mot « kaléo » signifie autre chose. C'est « appeler à haute voix ». C'est « appeler quelqu'un ». C'est « nommer par le nom ». Ah là, tout à coup, ça prend un autre sens, bien-aimé, l'appel. Pourquoi j'aborde cette notion-là? Parce que la notion d'appel est liée à la notion d'identité. Quand Dieu t'appelle à être celui qu'il a prévu que tu sois depuis la création du monde. Dieu ne t'appelle pas à une fonction. Dieu ne t'appelle pas à un titre. Dieu t'appelle par ton nom. Quand Dieu t'appelle, c'est le mot kaléo, c'est appeler par le nom, c'est appeler ton identité. Si j'appelle Christophe, j'espère bien que ce n'est pas Sabine qui va me dire oui. Parce que c'est Christophe qui m'intéresse à ce moment-là. Si j'appelle Sabine, c'est parce qu'elle m'a fait un bon dessert. Sabine est une excellente cuisinière. Alors parfois dans l'assiette, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'elle aurait voulu, mais je vous assure que dans le ventre, ça fait vraiment du bien. Non, je t'embête, Sabine. Elle m'a dit, ne dites pas des trucs sur l'estrade, ne dites pas des trucs. Mais bien sûr que j'allais le dire, Sabine, tu crois quoi? Je reste français. Bien aimé, l'appel, c'est appeler par son nom. Dieu t'appelle par ton nom. J'ai l'habitude de dire ça, et j'en parle souvent avec joie. Pour moi, c'est pas une difficulté de parler et de célébrer la vie de mon grand-père, qui a été un homme extraordinaire, exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont marché comme lui sur cette terre. 95 ans. Mais vous savez, il a toujours été très surprenant, parce que non seulement Dieu lui a permis d'ouvrir l'église à la porte ouverte, il a vu énormément de guérisons, il a vu énormément de choses, il a prêché partout, énormément en Allemagne, etc. Et je me rappelle très bien ce jour où on était en équipe pastorale, et il nous dira, yo les frères, bon il avait quoi, il avait 80, 83 ans, 85 ans, il dit avec son bon accent alsacien, il dit yo les frères, maintenant c'est fini, moi je prêche plus maintenant. Et c'était réglé. Et il disait, il nous disait, mais bah, vous êtes assez de prédicateurs qui portaient du fruit, j'ai plus besoin de prêcher, c'est fini. Ça, mais je vous assure, la claque que ça m'a mis, parce qu'il n'est pas du tout attaché à sa fonction, il n'est pas du tout attaché à ce qu'il fait, il est attaché à celui qu'il sert. Mon grand-père a été le pasteur principal pendant des années, mais ensuite il n'était plus le pasteur principal. Est-ce qu'il est sorti de son appel? Est-ce qu'il n'a plus d'appel? J'attends des réponses quand même. Ne murmurez pas dans votre barbe. Il n'y a que moi qui peux le faire. Alors, est-ce qu'il est sorti? Non. Non. Non, pourquoi? Parce que son appel, ce n'était pas d'être le pasteur principal. Son appel, c'était d'être le serviteur de Dieu au moment où Dieu le voulait, de la manière dont Dieu le voulait. Alors oui, pendant un temps, c'était d'être le pasteur principal, mais ensuite, c'était autre chose. Son appel, c'était pas d'être prédicateur toute sa vie. Son appel, c'était d'honorer Dieu par les différentes saisons que Dieu a prévues pour lui. Bien-aimé, ne t'attache pas à une fonction. Parce que si tu t'attaches à une fonction, tu risques de ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Je vois malheureusement des hommes et des femmes qui sont tellement attachés à ce qu'ils font qu'ils oublient qu'il y a une nouvelle saison. La vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Il y a au début du mois de janvier, c'était une joie pour moi. Je suis pasteur dans l'église, mais j'ai également la responsabilité de la jeunesse. On a différents groupes de la jeunesse et on a pu lancer un groupe chez les jeunes adultes. Ils portent du fruit, ils annoncent, l'évangile est proclamé. J'ai pu être là à la genèse, amener la naissance de ce groupe-là. Mais là, maintenant, j'ai repéré, il y avait un des jeunes dans l'équipe avec moi qui sert le Seigneur. Et l'onction était sur lui. Je dis, c'est le moment maintenant, il faut lui laisser à lui. Je n'étais pas attaché. Parce que si je m'attache à ça, comment je peux recevoir les autres choses que Dieu a prévues pour moi? Bien-aimé, comment veux-tu recevoir les nouvelles choses que Dieu veut te donner si tu t'attaches à ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Si tu t'accroches à ça, et par moments, malheureusement, des fois, on est jusque dans le passé. Je me rappelle un jour, c'est mon papa qui racontait cette histoire, qui prêtait à sourire, mais qui était triste en même temps. Il prêchait dans une église, et là, il voit deux pianos droits. Deux pianistes, deux pianos droits, un jeune homme très 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 doué et qui avait vraiment une belle sensibilité dans la louange et une dame beaucoup plus âgée. On sentait qu'elle était très droite dans ses bottes, le chignon était très resserré aussi et elle jouait et elle était et tous les deux jouaient ensemble. Mais bon, c'était pas deux pianos droits comme ça, c'est pas évident, hein. Et à la fin, il demande au pasteur, il dit, c'est très beau le jeune là, il a vraiment beaucoup de talent. Juste une question, pourquoi vous en avez deux? Il dit, c'est très simple, c'est que la première, l'ancienne, elle a servi des années, mais elle ne veut pas le lâcher, le piano. Donc on n'avait pas d'autre choix que de mettre un deuxième. Elle était accrochée à ce piano. Bien-aimé, je ne vous souhaiterais jamais d'être comme ça, parce que vous perdez la nouvelle saison qui est devant vous. Vivez votre appel, mais acceptez que c'est quelque chose, que ce n'est pas une fonction, que ce n'est pas un titre. Non, quand Dieu nous appelle, Dieu appelle notre identité. Il y a un vrai défi identitaire aujourd'hui, on le sent, il y a un vrai défi de savoir qui je suis en Christ, qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que Dieu aime chez moi. Dieu appelle notre identité. Et je vous l'ai dit, nous sommes sel et lumière. Tu es du sel, tu es une lumière, tu es appelé à briller, tu es appelé à donner de la saveur, tu es appelé à montrer également la voie vers le Seigneur. Alléluia! Mais il y a du sens pour nous en Suisse, pour vous en Suisse maintenant, je m'inclus toujours dedans. Il y a du sens pour vous en Suisse, il y a du sens parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ne marchent pas encore avec le Seigneur pour avoir suffisamment, pour être lumière ici. Bien-aimé, que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que ton appel, c'est d'être à la sonorisation, mon frère? C'est plus que ça. Ça peut en faire partie. Est-ce que ton appel, c'est de servir dans l'église? Ça fait partie, mais c'est plus que ça. Ne t'accroche pas juste à une fonction. Peut-être qu'on m'appellera dans le conseil, et c'est ça que Dieu me demande. Il y a tellement plus pour toi. Tellement plus dans la présence de Dieu. L'appel, c'est au présent. Il y a un homme qui disait, on mourra tous un jour. On mourra tous, mais de tout cœur, ne mourrez pas de votre vivant. De tout cœur, ne mourrez pas de votre vivant. Ça fait sourire, mais c'est tellement vrai. Bien-aimé, je crois que l'Église, pendant tout un temps, est devenue stérile. Stérile, elle portait beaucoup de moins de fruits. Et j'ai un peu partagé mon cœur samedi matin à ceux qui étaient présents, mais j'ai partagé mon souci et mon fardeau que j'ai également pour l'Église en Suisse. Vous êtes une terre bénie. Vous avez eu le privilège de voir Dieu se manifester à plusieurs reprises, de différentes manières. Et regardez le fruit, ce sont des églises partout. Des églises en Suisse romande, des églises en Suisse alémanique. Il y a du fruit qui était le résultat finalement de la vie de l'Esprit qui s'est manifestée. Mais vous savez, quand on oublie, eh ben dis donc, ça vante, hein? Et quand on oublie que nous sommes bénis, quand on oublie qu'on vit la bénédiction, on oublie que c'est un privilège et que c'est une grâce. Et on s'habitue à la bénédiction. On s'habitue. Vous savez, moi, on a à la porte ouverte un grand privilège de voir Dieu se manifester, de voir les paroles de connaissance, de voir tout ça. Mais on a des jeunes qui grandissent dans l'Église. J'ai fait partie de ces jeunes-là qui ont toujours connu ça. Je me rappelle un jour, j'étais avec les adolescents et je leur disais, je devais prêcher sur les dons de l'Esprit. Et je leur dis, OK, qui a déjà reçu une parole de connaissance? Il a entendu une parole de connaissance, ça lui correspondait. J'avais 95% des jeunes qui ont levé leurs mains. C'est magnifique, hein? Vraiment des paroles claires. J'aurais dit d'accord. Qui peut m'expliquer maintenant ce que c'est une parole de connaissance? Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'ils avaient expérimenté quelque chose, mais ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce que si tu oublies que c'est un privilège, tu oublies d'être reconnaissant. Tu oublies de creuser, tu oublies de chercher constamment, régulièrement. Vous pourrez demander à Judith ou à David, je dis aux jeunes, et ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ce n'est pas acquis. Bien-aimé, la bénédiction que vous avez eue en Suisse n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ce n'est pas parce que vous étiez un pays neutre, ce n'est pas pour ça, c'est une grâce. C'est un privilège que Dieu vous a fait. Mais je crains qu'avec du temps, on a oublié cela. Et je partageais hier, je crois vraiment qu'il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin d'un renouveau dans votre spiritualité, dans votre manière d'exprimer votre soif. Pas juste, parce que je sais qu'en Suisse, on aime à prier pour le réveil. Et en plus, là, il y a le réveil à Asbury et ça. Et ah, ça va venir chez nous. Mais n'attends pas Asbury. N'attends pas Asbury. Toi, sois une lumière. Tu vas voir que tes voisins vont se réveiller. Tu vas voir que ça va amener quelque chose de nouveau. Sois une bénédiction, sois beaucoup plus enclin à tout donner à Christ. Et tu verras que alors, oui, Dieu t'appelle à beaucoup plus que ce que tu imagines ou ce que tu vois. Dieu t'appelle à être parfaitement l'homme ou la femme qu'il a prévu. Vous savez, il y a ce décalage entre ce que nous sommes et ce que Dieu voit de nous. Entre ce que nous sommes sur terre et ce que Dieu voit de nous. Avant que nous soyons à Christ, nous sommes un être dans le péché, nous sommes un être charnel. Mais une fois que nous acceptons Christ, notre vie, notre nature, notre esprit est vivifié. Et à ce moment-là, eh bien, nous recevons cette nouvelle identité, cette identité en Christ. Mais le temps qu'on la comprenne, le temps qu'on la vive, il y a un petit décalage. Moi, je sais que j'ai aimé Jésus depuis très, très petit. J'ai aimé Jésus sincèrement très, très jeune. Et j'ai laissé quand même beaucoup de mal-être grandir chez moi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, Dieu avait travaillé mon cœur, Dieu m'avait changé. J'étais quelqu'un de particulièrement timide. Mais quand je vous dis timide, être comme ça là avec vous, ce n'était pas possible déjà. Et puis juste discuter avec des gens de mon âge, ce n'était pas possible. J'étais trop timide, j'étais tellement pas bien dans ma peau que j'étais trop timide. Et j'ai commencé à dire et à prier de cette manière, « Seigneur, fais que je me vois comme toi, tu me vois. » Et vous savez quoi, cette prière a tout changé. Parce que plus je cherchais comment Dieu me voyait, plus je voyais le regard de Dieu sur moi, mais plus ces scories qui étaient là, ces mensonges de mon ancienne identité, eh bien, ont sauté. Aujourd'hui, bon, je ne pense pas que vous ayez l'impression que je sois très timide. Je vous assure, c'est complètement parti si vous aviez des doutes. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à percevoir le regard de Dieu, l'identité que j'ai en Christ. On l'a lu hier également dans Corinthiens, mais nous tous qui contemplons Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image. Plus tu regardes à Christ et plus tu te vois comme il te voit. Vous me comprenez ? Bien-aimé, c'est cette identité-là que Dieu appelle. C'est cette identité-là. Connais-tu réellement qui tu es en Christ ? C'est ma première question. Sais-tu réellement qui tu es en Christ ? Ou alors vois-tu ta soif, vois-tu ton amour pour Dieu et en même temps t'as encore tes failles, tes défauts, tes choses que tu... Je suis né comme ça. Hey, Dieu t'a destiné parfaitement. Ta nature pécheresse a pollué le dessein. Mais Dieu, par le sang de Jésus, l'a nettoyé. Tu es beaucoup plus que ce que tu vois ou ce que tu vis. Tu es ce que Dieu voit, ce que Dieu appelle. Mon frère, ma sœur, Dieu, quand Dieu t'appelle, il t'appelle à être la version la plus parfaite de ce qu'il a toujours voulu de toi. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. C'est ça ce que Dieu veut. Alors, je te laisse te poser cette question en ton âme et conscience. Est-ce que tu es la version la plus parfaite de ce que Dieu a prévu ? Bon, vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse pour le coup, là, je le prendrai pas mal. Mais pose-toi cette question. Es-tu la version la plus parfaite de ce que Dieu a prévu ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses, il y a encore des schémas de pensée, encore des peurs, des craintes qui me tiennent et qui m'empêchent d'être pleinement ce que Dieu attendait de moi. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle. Oui, nous avons un appel commun. Oui, nous avons un appel commun, mais nous avons également un appel spécifique. Chacun ici, vous avez un talent. Au moins un. Chacun ici. Vous savez, on pourrait se dire, ah, ça c'est des prédications pour les jeunes, mais combien de personnes plus anciennes je vois qui bataillent avec ça ? Mais qu'est-ce que le Seigneur peut faire de moi ? Bien-aimé, chacun ici, ça serait faire mentir Dieu de dire j'ai pas de talent. Chacun ici a un talent, chacun ici a une spécificité, mais Dieu attend de toi que tu puisses le vivre aujourd'hui même. Aujourd'hui même, vas-tu être prêt à te lancer ? Vas-tu être prêt à aller de l'avant ? Vas-tu être prêt à perdre le contrôle? Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il t'appelle à le laisser te conduire. Il t'appelle à le laisser te défier. Bien-aimé, moi j'ai eu la chance, pour mon enterrement de vie de garçon, de faire un saut à l'élastique. Il y en a qui ont déjà peur. Non, alors, vous ne le ferez pas, je vous rassure. Mais bon, effectivement, ça donne des sensations. Si vous aviez des doutes, ça donne des sensations, ça donne des émotions. Mais ça m'a franchement parlé. Parce que quand moi, j'avais le saut à l'élastique, je devais être à quoi ? 15 mètres, quelque chose comme ça. Et en dessous, donc c'était une plateforme, c'était en forêt. À la rigueur, si j'étais en pleine rivière, bon, ça rassurait, l'eau qui peut amortir la chute. Là, il y avait un petit filet d'eau. Pas suffisamment pour m'amortir, pas suffisamment non plus pour m'abreuver. C'était vraiment un tout petit filet d'eau, hein. Et là, on est en haut de la plateforme, et donc plein de rochers. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils me font, ils me scratchent les pieds avec du velcro, tout simplement. Là, vous devez avoir vraiment foi dans la science, je vous assure. Et j'ai les deux pieds donc comme ça attachés. Et ce qu'il y a, c'est que l'élastique est sous la plateforme sous laquelle je marche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je regarde pas mes pieds, si je vois pas les scratchs, je peux marcher. J'ai aucune sensation d'être attaché. Et là, mon cerveau, il se dit, il y a un truc bizarre là. Je crois qu'il va nous faire une folie. Et je dis, bon, mais, alors je regarde, je dis, non, c'est bon, tu es attaché, Ben. Mais j'ai pas eu le temps de vérifier l'élastique, j'ai pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit. Et là, donc le monsieur là, qui m'accompagne, il me met au bord de la plateforme. Donc il te met. Et il te dit, tu vois, il y avait un petit filet en bas, ça me rassurait, mais c'était... Il était vraiment petit le filet, mais ça me rassurait. Il me dit, tu vois le filet ? Je dis oui. Il me dit, il faut que tu sautes plus loin que le filet. Pourquoi vous mettez un filet ? Alors, je ne comprends pas. Donc, c'était pour me rattraper après, mais il dit, il faut sauter plus loin. Il me dit, je dis d'accord, donc je veux m'apprêter. C'est difficile quand même. Et il dit, ah, autre chose très importante, il faut que tu sautes la tête la première aussi. Je n'avais pas prévu de mourir aussi jeune quand même. Et en fait, il dit, non, si tu ne sautes pas la tête la première, tu peux vraiment te blesser, tu peux te faire mal. Mais à ce moment-là, bien aimé, si vous ne laissez que votre cerveau fonctionner, je vous assure que vous ne sautez pas. C'est simple, hein. Il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses qui m'ont boosté, le fait que je voulais vraiment faire un saut à l'élastique et le fait que j'avais mon beau-frère et mon frère en face et si je n'avais pas sauté, ils m'auraient laminé jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'étais là et à un moment donné, vous devez accepter que vous perdez le contrôle. Vous devez oublier. Paul dira, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est du passé. Bien-aimé, si tu veux te lancer dans une perte de contrôle avec Christ, te lancer dans une vie où lui dirige, il faut que tu oublies tout ce que tu connais. Et que tu te laisses diriger par lui, que tu lui fasses confiance. Alléluia. J'étais dans un camp d'adolescents et on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait vraiment la présence de Dieu qui était là. Et il y avait une soif qui était là. Et je me rappelle d'une jeune, je prie pour elle, pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Alors que je prie avec elle, donc on était tous les jeunes étaient à l'avant comme ça. Et on était compacts aussi, beaucoup de transpiration. Puis c'est des ados, ça sentait très fort. Mais le Seigneur agissait, donc amen, ça nous donne de la force. Et là je vois cette jeune et elle cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Elle demande le baptême dans le Saint-Esprit et je vois qu'elle a un bras dans le plâtre. Et là, alors que je prie pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, le Seigneur me dit dans mon cœur, si elle enlève son plâtre, elle sera complètement guérie. Elle avait un bras cassé. Si elle enlève son plâtre, elle sera complètement guérie. Et là, quand il me dit ça, bien-aimé, c'est comme le saut à l'élastique. Ça ne sert à rien de réfléchir trop longtemps. Parce qu'enlever un plâtre n'a jamais guéri quelqu'un. À moins qu'en Suisse, vous avez des plâtres et des médecins extraordinaires. Mais enlever ce plâtre-là ne la guérissait pas. Bien-aimé, elle avait soif et je lui partage ça. Je lui dis, est-ce que tu crois à cette parole? Et elle me dit en larmes, oui, je crois. Et elle tire sur son plâtre comme ça pour l'enlever. Elle dit, aïe, ça fait mal. Mais c'est pas un gant, c'est un plâtre, tu l'enlèves pas comme ça. Et là, moi, je sentais la pression qui montait parce que j'avais des infirmières qui étaient autour de moi. C'est une jeune mineure. J'avais tous les jeunes qui étaient là. Il y avait une soif qui était là. Bon, il n'y a pas intérêt à se tromper, hein. Parce que là, je vous assure, c'est une tisane, une camomille et au lit 10 minutes après, hein, si ça se passe mal. Hein. Et je demande à une personne de chercher des ciseaux. On prend les ciseaux, on coupe son plâtre. Et au moment où elle fait comme ça, la jeune fille était totalement guérie. Et là, à ce moment-là, mais c'était, tu sentais la présence du Saint-Esprit qui est venu envahir le lieu. Et là, le Seigneur me dit, maintenant, c'est les jeunes qui vont prier pour les malades. Les adultes, hein, prier pour les malades. Les malades étaient guéris, ils ont commencé à donner des paroles de connaissance, à prophétiser. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais tout simplement parce que j'ai, à un moment donné, accepté de perdre le contrôle. J'ai accepté de lâcher prise. Bien-aimé, Dieu t'appelle à lâcher prise ce matin. Dieu t'appelle à arrêter d'essayer de tout comprendre, à arrêter d'essayer de tout interpréter. Il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne peut même pas concevoir dans notre tête. Mais si Dieu te demande, fais. Si Dieu t'appelle, agis, va de l'avant, bien-aimé. Profite du fait qu'aujourd'hui, Dieu t'ait donné le souffle de vie. Sabine a témoigné en disant, mais s'il y a 50 ans, le Seigneur n'avait pas agi, je ne serais pas là. J'aimerais te dire, si ce matin, Dieu n'avait pas agi, tu ne serais pas là. Si ce matin, Dieu n'avait pas agi, tu ne serais pas là. Alors pourquoi es-tu là aujourd'hui? Pourquoi veut-il que tu vives aujourd'hui? Vu comme ça, nos jours prennent un autre sens. Pourquoi a-t-il prévu que tu sois encore sur cette terre aujourd'hui? C'est sûrement pas pour passer ta journée devant la télé. Sûrement pas. C'est parce qu'il y a plus de sens. Bien-aimé, l'appel c'est maintenant, l'appel c'est profiter de cette saison. Vous savez, moi, pourquoi je prêche sur la notion d'appel, c'est parce que j'entends des fois des discours qui me troublent, qui m'embêtent. C'est je suis en pleine préparation pour rentrer dans mon appel. Mais excuse-moi, si tu dois rentrer dans ton appel, t'es où alors? Mais c'est une vraie question. Quand on dit je vais rentrer dans mon appel, mais ça veut dire qu'il n'y est pas. Ça veut dire que tu es où? L'appel, c'est maintenant. Malheureusement, des fois, je crois que, vous savez, on passe les différentes étapes en disant « Ah, c'est une saison qui me prépare pour mon appel. » Mais je vois des gens qui sont que dans les vestiaires, qui ne sont que dans une salle d'attente, et ils mourront dans la salle d'attente. Et à 65 ans, tu fais beaucoup moins qu'à 20. Hein. Et bon, encore 65 ans, vous êtes jeune. 85 ans, vous faites beaucoup moins qu'à 20. Bien-aimé, ta vie n'est pas une salle d'attente. C'est maintenant que tu vis ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Alors oui, chaque saison peut entraîner une suivante et peut donner déboucher sur quelque chose d'autre. Le Seigneur m'avait demandé de venir en Suisse et je suis venu pendant 3 ans, j'ai servi, j'ai grandi, j'ai appris, mais j'ai été une bénédiction pendant 3 ans. Ça ne m'a pas juste préparé, ça m'a permis d'être une bénédiction pendant 3 ans. Et puis ensuite, le Seigneur m'a demandé de revenir à Mulhouse. Et maintenant, je suis une bénédiction à Mulhouse. Mais ça ne me prépare pas juste pour la suite. Vous comprenez la réflexion ? Bien-aimé, là où tu es maintenant, tu es appelé à être une bénédiction maintenant. Ce n'est pas juste une question de préparation pour demain. Les plus jeunes, vous êtes à l'école, si c'est ce que Dieu a voulu, c'est votre appel maintenant. Soyez sel et lumière à l'école. Oui, ça me prépare ensuite, ça travaille mon caractère. Non, aussi, mais pas que. Fais ce que Dieu te demande. Vous êtes sur votre lieu de travail et vous sentez que peut-être Dieu vous demande un jour de prêcher, mais la question de la prédication, ce n'est pas maintenant. La question maintenant, c'est vas-tu prêcher l'évangile à tes collègues ? Vas-tu faire ce que Dieu te demande aujourd'hui ? Ce n'est pas parce que tu as un collègue compliqué, un collègue difficile, que le Seigneur t'a juste envoyé là-bas pour travailler ta patience. Le Seigneur t'appelle à être sel et lumière sur ton lieu de travail. Seigneur t'appelle à être sel et lumière auprès de tes voisins. Moi, j'ai déménagé il y a quelque temps avec mon épouse et on a la joie d'avoir vraiment pu connecter avec quelques voisins et notamment une dame un peu plus âgée. Et cette dame plus âgée, ça s'est fait, mais tout simplement, regardez comment ça peut être très simple. On s'est dit, on va faire des gâteaux pour dire bonjour, etc. Je ne sais pas si ça se fait un peu en Suisse. En tout cas, nous, on aime bien faire ça, faire le tour des voisins, ça permet de connaître. Et on fait des gâteaux, on fait pour elle et du coup pour son mari. Ils sont 70 ans passés. Et là, je la vois avec des larmes dans les yeux. Bon, je savais que ma femme cuisinait bien, mais quand même... À ce point-là, je trouvais que c'était un peu exagéré, mais elle dit, mais ça nous touche tellement. Elle dit, s'il vous plaît, rentrez dans la maison. J'aimerais qu'on puisse prendre du temps ensemble. On est resté, au final, on n'a même pas fait le tour des voisins, on est resté 1h30 avec eux. Ils nous ont parlé de leurs soucis. J'ai dit, et pour un souci précis, j'ai dit, mais écoutez, on va prier pour ça. On a prié pour ça, et 2 semaines après, elle a commencé à avoir l'exaucement à cette prière. Elle est sonnée chez moi, elle dit, mais ça marche. Elle est venue, et puis c'est des gens qui sont très seuls, donc on s'est dit, mais tu sais quoi, on va les inviter le soir du 24 à Noël, on les a pris avec nous, et le lendemain, elle dit, est-ce que je peux venir au culte avec toi ? Et là, je sais qu'elle nous... Alors, je ne sais pas si elle va regarder ce culte-là, Marie-Dominique, mais je sais que tous les cultes à la porte ouverte, quand je prêche ou quand mon papa prêche, elle les regarde tous. Et elle avance, et elle chemine. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des gâteaux. Et Dieu merci, ce n'est pas moi qui les ai faits. Mais bien aimé. Tout simplement pour ça. Tout simplement pour ça. Briller, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dieu ne te demande pas de marcher sur l'eau pour être une lumière. Mais juste fais-lui confiance. Sois simple, sois disponible et disposé, mon ami. Je me rappelle, je vous donne quelques témoignages, ça peut encourager votre foi, mais je me rappelle, j'aime bien ce témoignage parce qu'il montre que ça ne demande pas beaucoup de foi et j'avoue que ce témoignage me met plutôt la honte, mais ça glorifie le Seigneur, donc allons-y. J'étais avec une jeune au McDonald's et cette jeune, elle était, vous savez, quand on s'occupe des jeunes, c'est un peu comme les anciens aussi, un coup ça va avec le Seigneur, un coup c'est plus compliqué, un coup ça revient, un coup c'est plus compliqué, donc nous en tant que pasteur, on est là, on les lève, on dit, allez ça va, allez, hop. Et 2 mois après, de nouveau, allez, on va y aller. Donc on les aide comme ça. Et là, elle n'avait pas le moral, elle n'était pas bien. Elle dit, non mais Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend jamais mes prières, etc. Et donc, on était au McDonald's pour manger. J'aime le McDonald's, j'aime manger avec les jeunes. Et là, on était à côté d'une université à midi dans un McDonald's. Donc autant vous dire qu'il y avait très très peu de place. D'accord ? C'était pas très Covid à ce moment-là, c'était avant le Covid. Et c'était tellement serré que je sentais le dos des gens qui étaient en train de commander alors que je mangeais, vous voyez ? Et là, elle me disait, non, mais Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu de ceci, de cela. Et je disais, mais si, il faut y croire, et on mangeait, etc. Et pendant que je lui parle, je vois à l'entrée, je vois une femme allongée par terre dans le sas pour rentrer. Et je vois un jeune homme à côté d'elle, accroupi, qui lui met des baffes comme ça. Je me dis, c'est pas très gentil, premièrement. Et puis après, j'ai vite compris, bien sûr, qu'elle était évanouie, cette jeune femme. Et moi, j'étais en train de dire, mais si, Dieu agit. Mais si, il faut que tu crois. Mais si, Dieu est présent. Et là, je vois cette jeune femme. Bien sûr, le Saint-Esprit l'avait repéré aussi, cette jeune femme. Et il me dit, du coup, va prier avec elle, puisque j'agis. Et là, c'est autre chose. Je suis honnête, Là, c'est autre chose. Parce que là, je ne suis pas à la porte ouverte, je ne suis pas un mardi soir, je ne suis pas dans une église où je prie pour les malades. Je suis dans un McDonald's rempli d'étudiants. Et ça me travaillait, ça me travaillait. Et j'avais dans ma tête, pour vous montrer, hein, j'avais deux pensées. D'un côté, je me disais, si j'y vais pas, la jeune, elle va dire, tu vois, même toi, tu n'y crois pas. Donc j'étais piégé. De l'autre côté, je disais, si j'y vais, il ne se passe pas, il ne se passe rien. Elle va me dire, tu vois, je t'avais dit, hein, c'est pas grave. Hein. Mais, donc j'étais vraiment piégé des deux côés. Et à un moment donné, j'arrivais, ça me perturbait tellement que j'arrivais même plus à l'écouter, la jeune. Et elle me dit, tu veux aller prier, c'est ça? J'ai dit, oui. Alors je lui dis, viens avec moi. Elle me dit, non, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc je dis, bon, alors je vais y aller, j'y vais. Et je me rapproche de cette jeune fille. Cette jeune femme, elle était évanouie. Et là, et tout le monde regardait sur ça, en fait. Et là, je dis au jeune homme, je lui dis, écoute, excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, bah, elle a perdu connaissance, c'est ma chérie, voilà. Les pompiers sont en route. Et je lui dis, écoute, moi je crois en Dieu, je crois que Dieu peut l'aider, donc c'était d'accord, je prie pour elle. Je pense qu'il n'a jamais entendu aussi bizarre dans un McDonald's. Il m'a regardé, il a fait, j'ai pris ça pour un oui. J'ai dit, à ce moment-là, il faut prendre tout ce que tu peux prendre. Hein. J'ai dit, ok, ça veut dire oui, peut-être, donc on va y aller. Et donc elle était allongée comme ça, et un peu comme maintenant, je sentais le poids, vous savez, quand vous sentez le poids du regard des gens sur votre dos. Voilà, bah, c'était exactement la même chose. On sentait que tout à coup quelque chose se passait là, et tout le monde regardait. Et là, je vois cette jeune femme allongée, et je me baisse comme ça. En règle générale, si quelqu'un va mal dans l'église, on prie fort, on va prier pour les malades ce matin en plus. Donc vous allez voir, on n'a pas peur de prier, on croit que Dieu agit. Là, c'était plutôt de la supplication quand même. Hein. C'était, je me suis abaissé, j'ai juste dit, Seigneur, dis Seigneur. Faut pas que tu me lâches sur ce coup. Parce que là, il y a vraiment tout le monde qui me regarde. J'ai dit, tu vois, il y a la jeune qui est là aussi, elle regarde. C'était, j'ai moins parlé de la fille que de moi, hein, de ma détresse à moi, hein, je vous assure. Hein. Et j'ai posé ma main, et pour vous montrer hein, le peu de foi que j'avais, enfin le peu de et le gros stress que j'avais, j'étais en train de me dire, à un moment donné, je me disais, bon, ça commence à faire long, il va falloir quand même que je dise amen à un moment donné. Et de l'autre côté, je me suis dit, dès que je dis amen, je ne regarde pas, je sors et je pars. J'étais comme ça, hein, j'étais. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, voilà, j'ai dit, Seigneur, ne me lâche pas. Et j'ai juste dit, voilà, qu'elle puisse vraiment revenir à elle, au nom de Jésus, amen. Je veux tourner ma tête pour partir. Je dis amen, elle ouvre ses yeux, elle se remet droit, c'était complètement terminé. Et là, alors, normalement, un bon pasteur dira, c'est le Seigneur qui t'a touché, etc. Moi, je me suis mis à côté d'elle, j'ai montré à la jeune, j'ai dit, t'as vu, ça marche. Alors là, et le samedi soir, je raconte cette histoire, et là, il y avait un jeune qui était dans le McDonald's qui a vu tout ça. Et il ne m'a pas reconnu parce qu'il ne m'a vu que de dos, mais il dit, ah ouais, mais c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Bien aimé, tout ça parce que vous acceptez de perdre le contrôle. Tout ça parce que vous acceptez de perdre le contrôle. Est-ce que vous ferez les choses parfaitement? Certainement pas. Mais juste si vous vivez ce que Dieu attend pour vous aujourd'hui, je vous rassure, ce n'est pas tous les jours que je rentre dans un McDonald's que ça se passe comme ça. Et Dieu merci, parce que ça serait compliqué pour moi quand même. Mais bien aimé, juste sois ouvert à ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. La question, ce n'est pas demain, la question, c'est aujourd'hui. Je te le rappelle, encore une fois, si Dieu t'a donné le souffle de vie le 26 février 2023, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Permettez-moi de m'adresser un petit peu, vous êtes toujours avec moi? Permettez-moi de faire une petite parenthèse, m'adresser un petit peu aux mamans qui sont là. Parce que maintenant que j'en ai deux, enfin j'en ai avec le premier aussi, mais je vois ma femme qui par moment avait des fois l'impression de dire « Ah mais du coup, moi je fais rien pour le Seigneur ». Non! C'est ce que Dieu attend de toi maintenant. Et loue Dieu pour le privilège que tu as d'être mère. Et de prendre soin de ton enfant, c'est pas tu ne sers pas Dieu, tu es en train de le servir au travers de ça. Pourquoi il te donne le souffle de vie aujourd'hui? C'est pour prendre soin de tes enfants. C'est pour les éduquer dans la parole, c'est pour qu'ils deviennent solides. Vous savez, chaque saison est une grâce, chaque saison est un privilège. Ne te dis pas, ah oh, mais si seulement moi j'étais comme un tel, si seulement moi j'avais tel. Mais non, tu en finirais frustré puisque c'est ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui, c'est ce que tu vis. J'attendais encore un amen. Ne sois pas frustré de ça, c'est une grâce que tu as, c'est un privilège, les plus jeunes, ah mais si seulement moi j'étais plus vieux, je pourrais aller là, Non, c'est une grâce, c'est un privilège. Et les anciens, oh si moi j'avais encore un peu plus de force, c'est une grâce, c'est un privilège, vous avez beaucoup plus à donner que vous ne l'imaginez. J'en parlais avec mon frère là qui, oh ça me fait de la peine, vous êtes tout éblouis tous les deux. Mais ça, c'est la lumière du Seigneur qui est sur vous. Elle vous éblouit tellement que vous devez mettre la main comme ça, tous les deux. Mais bien aimé, c'est un privilège et j'aimerais vous encourager, profitez de chaque saison que vous avez pour être une lumière, pour être une bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le domaine. Laissez Dieu vous conduire, mais acceptez que quand Dieu vous appelle, non, ce n'est pas une fonction, non, ce n'est pas forcément un titre, mais Dieu t'appelle à être. Dieu t'appelle à être celui qu'il a toujours voulu, celle qu'il a toujours voulu. Vous savez, vivre l'appel forge l'identité. Vivre l'appel forge ton identité. Regardez Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Excusez-moi, il n'avait pas l'air d'être très vaillant, hein. Il se cachait pour battre le blé. Hein. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bon, alors là, Seigneur, t'es vraiment le seul à l'avoir vu. Regardez, mais regardez Gédéon. Regardez Gédéon qui progresse dans sa marche. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment tu es celui que tu dis, alors reste là, que je puisse faire un sacrifice. Il fait son sacrifice, Dieu lui parle, il fait un premier pas. Il détruit l'idole qui est là, mais il a peur, il le fait en cachette, il se cache. Mais regardez, il fait un deuxième pas, Dieu lui parle, il dit, je vais t'utiliser pour libérer le peuple de la main des Madianites. Il dit, ok, il a encore des failles. C'était, vous savez quoi, aux yeux de Dieu, c'était déjà un vaillant héros. Aux yeux de Dieu, il était déjà un vaillant héros. C'est juste qu'il ne le savait pas encore. C'est juste qu'il avait besoin de découvrir Dieu pour le vivre. Mais bon, il a encore des défis au niveau de sa foi, donc il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, vraiment que cette toison-là soit imbibée de la rosée et que tout soit sec autour. Bon, Dieu le fait. Il dit, Seigneur, j'ai quand même un petit doute. Si c'est vraiment toi, alors que maintenant la toison soit sec et tout reste imbibé de rosée. Bon, le Seigneur le fait. Il dit, ok, je vais un peu plus loin. Il vit son appel et de plus en plus, il devient réellement un vaillant héros. De plus en plus, il devient le leader des armées d'Israël quand même. Et regardez, au moment où Dieu, et je trouve ça très intéressant, au moment où Dieu lui dit, écoute, il y a trop de monde avec toi. Là, ils vont dire, c'est grâce à nous, etc. Bon, la stratégie militaire est quand même limite, hein. C'est vraiment parce que le Seigneur a parlé. Hein. Mais n'enlevez pas des... Première chose qu'il dit, tu dis à tous ceux qui ont peur de quitter l'armée. Franchement, ça m'arrangerait, moi, si on avait ça en temps de guerre. Ça serait arrangeant pour tout le monde. Hein. Tous ceux qui ont peur, vous pouvez partir. Bon, mais là, voilà, ils se retrouvent à 10 000, si je ne me trompe pas, dans la première fois. Il y en a encore trop. Il y en a encore trop. Et Dieu dit, ok, tu les mets tous à boire, là, au torrent. Et tous ceux qui lapent l'eau, déjà, sont très étranges. Je ne sais pas si vous buvez comme ça au torrent. Mais tous ceux qui lapent l'eau, c'est avec eux que tu iras combattre. Ils se retrouvent à 300. Frères, sœurs, moi, c'est là que j'aurais demandé une toison. Non, sans blague. Moi, c'est là que j'aurais dit, bon, quand même, là, Seigneur, 300, ils sont aussi nombreux que les sauterelles. Ça devient compliqué, là, quand même. Bien-aimé, non, Gédéon avait compris. Gédéon avait grandi dans la foi. Gédéon acceptait de se laisser diriger par le Seigneur maintenant. Il ne marche plus à coup de confirmation, il marche par la foi, il marche par l'obéissance. Ce matin, c'est ce que je veux t'encourager à vivre, mon frère, ma sœur. Vis l'instant avec le Seigneur. Vis l'instant avec le Seigneur. La vie n'est pas une photo, la vie est un film. Et que tu le veuilles ou non, la vie continue d'avancer. Que tu le veuilles ou non. Vous savez, lorsque j'ai été malade, cette année, ça me fait bizarre parce que ça fait 10 ans que j'ai été guéri, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai été guéri, mais lorsque j'ai été malade, j'avais une frustration au pas possible. Parce que je disais, ma vie part en l'air. C'est comme si ma vie est sur pause. C'est comme si rien ne se passait. J'avais l'impression que rien ne se passait. J'avais arrêté mes études, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus aller dans l'église, j'étais juste malade, j'étais rempli d'hallucinations, j'étais suicidaire, je me battais avec moi-même. Mais au-delà de ce que je voyais, le Seigneur était en train de soigner mon être à l'intérieur. Et vous savez, je le dis toujours avec beaucoup de recul, mais aussi beaucoup de conscience de ce que je suis en train de dire, cette maladie a été pour moi une des plus grandes bénédictions que j'ai vécues. Parce que Dieu m'a soigné au travers de cette maladie. Oh, on n'a pas l'habitude de le dire comme ça, hein, mais je pèse mes mots. Dieu m'a soigné au travers de cette maladie. Il m'a permis de sortir grandi. Et on en parlait avec Christophe. Des fois, je ne vous cache pas que des fois, j'ai l'impression d'être décalé avec certains jeunes de ma génération. Parce que je pense autrement. Alors peut-être le fait d'être papa, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ma maladie m'a donné des années d'expérience que je n'aurais jamais acquis sans elle. Jamais. Et là où j'avais l'impression de perdre du temps, que ma vie était sur pause, non, non, le Seigneur était totalement au contrôle. Ta vie n'est pas une photo, elle continue d'avancer, mais si tu laisses Dieu faire, alors je t'assure que Dieu t'amènera toujours un peu plus loin. Alléluia! Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Ne t'arrête pas comme si ta vie était finie. Ne t'arrête pas comme sur une photo. Que tes expériences du passé t'aident et nourrissent ta foi pour aujourd'hui. Je vois encore mon grand-père, avant qu'il parte, encore, vous savez, encore sur son lit de mort, il exerçait. Sur son lit de mort, il restait fidèle à la parole de Dieu. Et il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas en règle devant Dieu. Je vous assure qu'ils l'ont su encore sur son lit de mort. Encore sur son lit de mort, il a prié pour chacun d'entre nous. Il nous a imposé les mains. Je suis sûr que s'il y avait eu quelqu'un de malade, il aurait dit « Viens, je prie avec toi ». Encore sur son lit de mort, il se réjouissait encore de dire « Eh, tu sais quoi, j'ai pu annoncer l'évangile à quelqu'un en forêt là ». Mais il était content. Il était content. Vous savez pourquoi il lisait tellement mon grand-père, alors là, vous avez plein de livres de lui qui sont sur la table là-bas. Mais pourquoi c'était, je pense, probablement le meilleur lecteur de ses propres livres. Mais ce n'était pas pour se congratuler, dire « Oh, qu'est-ce que je suis fort !» Non, non, ça lui faisait du bien dans sa foi. Je vous rassure, tout à coup, il disait « Et c'est vrai que j'avais oublié ça, mais Dieu a été fidèle. » Et ça nourrissait sa foi pour aujourd'hui, pour l'instant présent. Bien-aimé, quel que soit ton âge, si tu vis l'instant présent, tu seras une bénédiction pour aujourd'hui, auprès de ceux vers qui Dieu t'envoie. Alors, j'aimerais terminer avec cette notion. Peut-être qu'il y a un obstacle dans ta vie qui t'empêche réellement de vivre l'appel, qui t'empêche réellement d'être celui que Dieu a prévu, qui t'empêche réellement de mettre en pratique aujourd'hui. Et je crois qu'il y a même quelques obstacles. Le premier que j'aimerais dire, c'est le confort. Le confort est un grand obstacle en Occident. Le confort est un grand obstacle. Il nous empêche, il nous attache aux choses matérielles. Il nous attache aux choses matérielles. Alors on prend beaucoup de temps pour prendre soin de notre maison. Et je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit délabrée. Mais on prend beaucoup de temps pour prendre soin de nos biens. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis juste que ce n'est pas là le cœur de ce que Dieu t'appelle à être. Ce n'est pas ça le cœur. Ce n'est pas ça l'essentiel. Je crois que le confort est un obstacle. Il t'empêche de marcher dans la foi. Vous savez, quand on est dans cette zone de confort, quand on est dans notre confort, on s'habitue trop facilement. Vous avez déjà essayé, vous passez tous les soirs, vous prenez des douches bien chaudes, et du jour au lendemain, vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends que des douches froides. Vous allez voir le confort, il va vous parler. Ça fait mal. C'est dérangeant. Alors, si vous êtes habitué à la douche froide, ça va. Mais je vous assure, moi qui aime les douches chaudes, ça pique, hein. J'ai arrêté. Je m'étais dit, douche froide à partir de maintenant, j'en ai fait deux. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Mais bien aimé, le confort t'empêche réellement. Le confort. Et puis la peur. La peur du quand dira-t-on. Ah, mais toi, tu fais le spirituel, toi. Mais j'aimerais te proposer une autre peur. La peur de qu'est-ce que Dieu en dira. Je pense que c'est une meilleure peur, hein. Meilleure crainte, qu'est-ce que Dieu va dire? Vous savez, encore une fois, hein, c'est simple pour moi de parler de lui, mais mon grand-père, il avait, mais puis peu importe ce que les gens pensaient, mais franchement, hein, vraiment, je me suis dit des fois, mais peut-être qu'il a des problèmes d'ouïe, peut-être qu'il ne se rend pas compte, en fait, mais ça lui passait à des kilomètres, On lui disait un truc, oui. Et oui, les gens se moquaient. Les gens se moquaient, vous savez, il passait, il était tellement gentil, tellement bon, il passait pour naïf. Je vous assure qu'il était loin de là, hein. Il était loin d'être naïf. Il passait pour naïf et, oh, tu laisse Benjamin, nous on sait pour qui on le fait. On sert le Seigneur. Quel privilège, quelle grâce. Mais c'était même pas, ça lui restait dans la tête. C'était même pas, il avait le souvenir. Pas du tout, ça lui passait au-dessus. Bien aimé. La peur du regard des autres, le quand dira-t-on, va t'empêcher réellement de marcher par la foi. Vous l'avez beaucoup chanté ce matin. Oui, nous croyons à ce Dieu de miracle, mais ce Dieu de miracle attend des hommes et des femmes qui le pratiquent. Il attend des hommes et des femmes qui le pratiquent. Il attend des hommes et des femmes qui disent, peu importe ce que mes collègues pensent, moi je vais agir. Je vais agir, je vous encourage à ça. Bien aimé, pratiquez une foi concrète et incarnée dans votre vie de travail. Dans votre vie de travail, je termine avec ce petit témoignage. Quand j'étais ici en Suisse, j'avais le privilège d'être et dans une église, je travaillais à 50%, et l'autre 50% dans un travail, j'étais animateur pour des personnes âgées handicapées. Et j'avais beaucoup de collègues qui étaient des éducatrices, je travaillais que avec des femmes. C'était pas facile, je vous assure. Mais mes dames, en général, elles me disent « Ouais, je comprends, c'est vraiment... » Mais c'était vraiment c'était challengeant pour mon caractère. Et en plus de ça, donc elles étaient 100% non chrétiennes. Hein. Elles étaient vraiment... voilà, si elles auraient pu m'amener plus loin, c'était, elles étaient contentes. Un soir, un jour, elles m'ont dit « Ben, tu veux pas venir en boîte de nuit, c'est nous qui te payons la drogue. » J'ai dit « Bon, écoute, merci de la proposition, c'est très généreux de ta part, mais je vais décliner cette proposition. » Elles étaient vraiment comme ça, c'était le monde du social, pour ceux qui connaissent un peu le monde du social. Et elles étaient ouvertes, voilà. Mais par contre, pour chacune d'entre elles, tous les matins, je priais. Et je priais pas « Seigneur, tu bénis mes collègues. » Je les nommais. « Seigneur, tu bénis Marine. » Tu bénis Jessica, je les nommais chacune d'entre elles. Et dès que l'occasion se présentait, elles me parlaient d'un souci, je disais « Mais tu sais que je prie pour toi tous les matins ?» Alors certaines me disaient « Ouais, t'as pas besoin, j'y crois pas. » Et d'autres me disaient « Oh merci, ça me touche. » Et je me rappelle cette collègue Marine qui elle était passée par un temps psychique très compliqué et Dieu avait touché, on avait prié, Dieu avait touché. Et quelques temps après, elle revient me voir et elle me dit « Écoute, j'ai mon chéri qui cherche un travail et il ne trouve pas de travail, ça fait des mois qu'il cherche un travail. Est-ce que tu peux ?» Elle était très superstitieuse, elle me dit « Est-ce que tu peux pas faire une petite prière ?» Ouais, j'aime pas trop quand on me vend comme ça les choses, hein, je suis pas un distributeur de prières. Mais j'ai dit « Bah si, bon, si on peut prier, mais à condition que tu pries aussi. Dieu peut t'entendre aussi. » Elle me dit « D'accord, ok. » Et là, elle me dit, sans réfléchir, elle me dit « Franchement, si dans 2 semaines, il trouve un travail, je viens avec toi à l'église. » J'ai « Ok. » Alors là, on rigole plus. Là. Et là, j'ai saisi le bâton. Là, il ne faut pas le lâcher. Et j'ai saisi le bâton et je lui ai dit « Ok, on se donne 2 semaines. On prie chacun chez nous. On se donne 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on regarde. » Et on prie. Première semaine, il ne se passe rien. Tous les matins, je priais pour ça. Deuxième semaine, lundi, mardi, mercredi. Mon dernier jour, le vendredi. Et là, j'ai une autre collègue qui vient me voir et qui me dit « Marine, elle est venue te voir ? » Je dis « Non, elle n'est pas venue. » Elle me dit « Va la voir, là. » Je dis « Ok, je vais la voir. » Et il y avait les autres collègues. Et elle me dit, je dis « Ouais, Marine, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me regarde avec une tête, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose. Elle me dit « Écoute, aujourd'hui, mon chéri, il a reçu 3 propositions d'embauche. » Je dis « Ah, vous voyez, si on priait plus, il n'y aurait pas de chômage. » Mais bon, alors Marine n'a jamais tenu sa parole de venir à l'église. Je soupçonnais qu'elle n'allait pas tenir. Mais surtout, elle a expérimenté Dieu. Mais elle ne pourra pas dire, à 2 reprises, elle a vécu le surnaturel. Vous savez, ce qui était extraordinaire, c'est que Marine, elle a permis l'embauche de plein d'autres collègues ensuite. Et chaque collègue me connaissait déjà avant que je les connaisse. Et chaque collègue savait que je priais pour elle. Et chaque collègue savait que Dieu avait réalisé quelque chose. Elle leur avait raconté, elle avait évangélisé sans même le savoir. Chaque collègue, elle m'avait ouvert une porte. Pourquoi ? Parce qu'on accepte de se laisser défier par le Seigneur. On accepte de perdre pied. Bien-aimé, vis aujourd'hui. Ne meurs pas de ton vivant. Ne meurs pas de ton vivant. Ne passe pas à côté. Ce pays a besoin d'hommes et de femmes, de disciples de Christ qui vivent ce qu'il leur demande pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le matin, tu te lèves et tu demandes, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour moi aujourd'hui ? Je veux faire ce que tu me demandes. Je veux être là où tu m'appelles. Et je ne veux pas culpabiliser. Peut-être que tu ne verras pas beaucoup de guérison. Peut-être que Dieu, vraiment pendant un temps, tu permettras de faire grandir des hommes et des femmes de Dieu solides pour la prochaine génération. C'est le plus grand des privilèges que tu aies. Quelle grâce a eu Marie ? Quel privilège a eu Marie ? Bien-aimé, ce sont des privilèges que tu as. Profite de chaque saison. Profite de chaque saison. Ne passe pas à côté. N'attends pas demain. N'attends pas demain pour vivre. Tu sais, vous savez, le futur, c'est quelque chose d'impalpable. Dès qu'il est entre nos mains, on l'appelle le présent. N'attends pas demain. Parce que dès que c'est... Tu diras, plus tard. Mais le problème, c'est que plus tard, c'est aujourd'hui. Tu attends un petit peu et ça devient aujourd'hui. Le futur est une notion. Le présent est une réalité. C'est aujourd'hui.